Besançon. Le forum France Bleu Besançon.
Et ce matin sur France Bleu Besançon, on parle des produits phytosanitaires, ces produits chimiques utilisés pour traiter les pelouses, les espaces verts dans les communes notamment. Elles vont bientôt être supprimées, ces produits. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment utile de les supprimer, ce zéro phyto? Est-ce que vous pensez que c'est un gadget, au contraire? Est-ce que vous pensez que c'est bon pour l'environnement parce que ce ne sera pas rejeté dans les cours d'eau, ou alors que ça ne pourra pas éventuellement nuire aux insectes pollinisateurs, hein, je pense notamment aux abeilles? On en débat ce matin avec vous au 03 80 833 111 et avec Xavier Renaud, responsable du pôle environnement de la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles, Marion.
Voilà, cette fédération, on l'appelle aussi la Fredon, ça permettra de nous faire un petit peu plus court. Hein. Vous allez d'ailleurs nous expliquer ce que vous faites, la Fredon. En fait, quel est votre rôle dans cette démarche de moins de produits phytosanitaires?
En fait, la Fredon, à l'origine, c'est un syndicat professionnel qui travaille sur toutes les problématiques de nuisibles sur les végétaux. Le métier, c'est la santé du végétal. Dans ce cadre-là, qui dit nuisible aux végétaux, dit utilisation souvent de phytosanitaires. Effectivement, on a développé fin des années 90, milieu des années 90, une expertise sur les problématiques de pollution de l'eau par ces produits phytosanitaires. Et début des années 2000, on s'est rendu compte que il y avait une origine agricole de ces transferts de polluants dans les eaux, mais également une origine non agricole. Or, au niveau de l'agriculture, des actions étaient menées depuis de très nombreuses années, mais au niveau des utilisateurs non agricoles de ces produits, il n'y avait pas grand-chose de mené.
Notamment les particuliers et les communes.
Exactement.
Donc vous êtes là pour encourager les communes et les particuliers à aller vers moins de phyto.
Tout à fait. On travaille depuis le début des années 2000. On a développé une boîte à outils, une expertise sur l'accompagnement des collectivités, je dirais de la collectivité, pour une meilleure, et aujourd'hui on n'en est plus vraiment là, une moindre utilisation avec un objectif d'arrêt de l'emploi de ces produits-là.
Parce qu'effectivement d'ici 2020, ce sera totalement interdit pour les communes, d'ici 2022, ce sera totalement interdit pour les particuliers. À ce jour, hein, dites-moi si je me trompe, 78 communes en Franche-Comté ont déjà adhéré à la charte, hein, que vous avez mise en place, c'est-à-dire la charte zéro produit phytosanitaire, la charte zéro phyto, c'est bien ça?
Alors, je apporterai une petite précision, cette charte est à trois niveaux. Il y a un premier niveau où les communes utilisent des produits phytosanitaires, mais le font dans les règles de l'art, je dirais, en respectant les bonnes pratiques, en limitant les enjeux environnementaux, santé, même s'il y a toujours un risque, le risque zéro n'existe pas. Un niveau 2 où elles sont dans une démarche de réduction forte de l'emploi de ces phytosanitaires et notamment un arrêt sur les surfaces à risque pour l'environnement. Et le niveau 3 de cette charte, niveau ultime, effectivement, où elles sont en strict zéro phytosanitaire.
Et là, dans ce niveau 3, on a combien de communes?
On en a une trentaine aujourd'hui.
D'accord. Alors, si vous avez trois niveaux, c'est que c'est compliqué de passer au zéro phyto. Vous êtes en train de nous démontrer, finalement, c'est pas si simple que ça de passer au zéro produit phyto dans des communes.
C'est pas simple du tout. C'est une démarche par étape. Hein. Quand on a pratiqué pendant des décennies des applications d'herbicides pour l'entretien des espaces publics, de tout arrêter, est loin d'être simple pour une collectivité. Ça remet en cause les plannings des agents, ça remet en cause les techniques mises en œuvre, ça implique des investissements, ça implique aussi une meilleure acceptation de la végétation spontanée dans les espaces publics.
Ça veut dire qu'il faut accepter les mauvaises herbes, on va appeler un chat un chat. Hein.
Voilà.
C'est très joli comme vous nous l'avez dit. Donc accepter, vous avez dit ça comment là?
La végétation spontanée.
La végétation spontanée.
Aucune herbe n'est mauvaise en soi. Elle est indésirable dans certains lieux, effectivement. Et donc, c'est avoir un autre regard sur cette végétation en fonction des espaces, de ce qu'ils représentent pour la commune et de leurs usages. Voilà, il y a des espaces où on peut se permettre d'accepter un peu plus de végétation que d'autres.
Vous nous dites que vous avez développé une boîte à outils, c'est-à-dire qu'une commune qui veut passer demain, qui veut se passer des produits chimiques pour traiter ses espaces verts, vous nous avez parlé des habitudes qu'elle doit changer, mais qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse très concrètement? Il faut qu'elle investisse dans du matériel? On a entendu dans le journal Canovillard, il y en a quand même eu pour 28 000 euros. Qu'est-ce qu'elle doit faire?
Alors, il faut déjà commencer par faire un état des lieux des pratiques actuelles et un état des lieux des surfaces qui sont entretenues, notamment en termes de désherbage. l'enrobage. C'est indispensable pour déterminer dans la boîte à outils quelle technique pourra être mise en œuvre de manière optimale, hein, en fonction des moyens financiers, des moyens humains de la commune, pour entretenir en zéro chimique.
Ouais, on peut essayer de prendre des exemples très concrets pour savoir comment on fait pour se passer du désherbant.
Alors, on peut avoir des techniques préventives, hein, c'est-à-dire que quitte à ce que ça pousse, on va plutôt empêcher la pousse plutôt que de supprimer l'herbe qui pousse. Ces techniques préventives vont passer par des travaux de réfection, de réaménagement des espaces. On va refaire des jointures ciment ou en bitume. On va faire des couverts végétales, mais choisis cette fois-ci si on souhaite pas avoir de végétation spontanée poussée. Et puis on va avoir aussi des techniques curatives qui vont remplacer le désherbant chimique. Alors ça va être des techniques de type mécanique, comme l'a exprimé l'adjoint de Novillard, des désherbeurs mécaniques pour les aller ensabler. Ça va être des désherbeurs thermiques pour les surfaces, les linéaires de voirie, les surfaces imperméables, etc. Les pavés, par exemple.
On peut également revenir aux techniques des anciens, entre guillemets, très vite, le paillage, par exemple, tout simplement.
Tout à fait, le paillage fait partie des techniques préventives. On couvre les massifs à l'aide de paillage ou les pieds d'arbres.
Le paillage, pour les gens qui connaissent pas, pour les novices, on met de la paille simplement pour que les herbes ne poussent pas en dessous et puis avoir un beau terre-plein, par exemple.
Exactement. En plus, ça a d'autres avantages. Ça permet de limiter la sécheresse de l'endroit où on met le paillage. Oh. Ça maintient l'humidité au niveau du sol. Ça limite l'érosion par la pluie et par le vent. Et le paillage, en se dégradant, apporte en plus de la matière organique dans le sol. Donc, après, le choix du paillage, il y a un large catalogue aujourd'hui. Certains paillages peuvent être déconseillés pour certains types de végétaux. Je pense notamment aux écorces de résineux, où on peut pas les mettre partout non plus. Mais effectivement, c'est une technique très ancienne. D'ailleurs, dans ces démarches-là, on revient sur des techniques qui étaient réalisées avant, le balayage, le désherbage manuel,
tout simplement. Oui, ce que faisaient nos aïeux ici, en Franche-Comté, et partout ailleurs dans le monde, d'ailleurs. Que pensez-vous, justement, de ce zéro produit chimique dans les communes et dans les espaces verts de vos communes? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment utile pour l'environnement? Est-ce que vous pensez, au contraire, que ce n'est qu'un gadget? Dites-le nous, 03 80 833 11. Parlez-nous également de votre façon de faire chez vous, dans votre jardin, par exemple. Est-ce que vous avez décidé vous-même de vous dire, moi je passe au zéro produit chimique, je veux plus de produits chimiques dans mon jardin. Dites-nous comment vous fonctionnez. 03 80 833 111. On vous attend jusqu'à 8h30 sur France Bleu Besançon.
France Bleu. Le top France Bleu, Éric Bastien.
Un nouvel album pour Enrico Macias, Le Soleil de Provence, et un hommage au tube des années 80 avec Chico et les Gypsy. Sans oublier le succès de Kids United, ils font l'actualité musicale cette semaine et ils sont sur France Bleu.
Le top France Bleu de 19h30 à 21h sur France Bleu.
Salut, c'est Nathalie Simon. Chaque week-end sur France Bleu à 1h05, je vous donne mes conseils pour être en forme, pour vous sentir bien dans votre peau et pourquoi pas pour vous remettre au sport. Rassurez-vous, on le fera tranquillou.
Avec Nathalie Simon à 1h05.
Le conseil forme, santé et bien-être de France Bleu avec Endurance Shop. Premier réseau de magasins d'équipement pour la course à pied. Liste des magasins sur endurancehop.com.
Bonjour, c'est Thierry M. Vos difficultés sur la route en fin d'après-midi, c'est vous qui les signalez sur France Bleu. Ça vaut le détour. Ce soir, nous vous offrons vos places pour assister au concert bisontin du Dijonnais Yves Jamais, le grand régional, mercredi 9 mars. À tout à l'heure.
16h30, 19h, ça vaut le détour. France Bleu Matin, prenez la parole.
Le forum au 03 81 833 111.
D'ici à 2020, les communes seront incitées à passer au zéro produit chimique pour leurs pelouses et leurs espaces verts. Alors que pensez-vous de cela? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment utile ce zéro produit chimique dans les communes? Est-ce que vous pensez au contraire que c'est un gadget? Réagissez en direct sur France Bleu Besançon, 03 81 833 111.
Xavier Renaud, vous êtes responsable du pôle environnement de la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles, la FREDON, qui incite les particuliers, les communes à passer au zéro phyto. Est-ce qu'aujourd'hui les esprits sont prêts à ce zéro produit phytosanitaire ou non? Est-ce qu'il faut encore batailler, lutter pour changer des habitudes et des façons de voir?
Je dirais on a les deux. On a des gens convaincus, hein, que ça soit du côté des communes comme des particuliers, convaincus par la nécessité de réduire un maximum ou de supprimer totalement l'usage de ces produits. Et à côté de ça aussi, on a des craintes, des freins qu'il faut lever au niveau de ce que ça peut impliquer après derrière en termes de pratique, de changement de pratique.
Mais est-ce qu'il n'y a pas également tout ce lobbying en fait fait, de la grande industrie chimique mondiale qui pousserait éventuellement à les communes à continuer à bosser avec des produits chimiques?
Je verrais pas comme ça. C'est une remise en cause des habitudes pendant plusieurs décennies. Effectivement, je dirais que au niveau marketing et le chimique a cet avantage de, pour une même technique, un même produit, de la déployer partout pour un même résultat. C'est revenir un petit peu sur ce schéma qui est mis en place, voilà, comme je le disais tout à l'heure, depuis plusieurs décennies. Et c'est pas évident. C'est pas évident à remettre en cause.
En matière d'utilisation de produits phytosanitaires, qui sont les plus gros utilisateurs? Là, on parle des communes, mais est-ce que ce sont les communes, les particuliers, les agriculteurs?
Alors, si on regarde les tonnages annuels à l'échelle française, c'est quand on arrive à trouver les chiffres, c'est pas toujours évident. Effectivement, 90% du tonnage de produits phytosanitaires vendus et appliqués en France est dans le cadre du monde agricole. 10%, hein, c'est les chiffres qu'on admet généralement, 10% est lié aux usages non agricoles. Et c'est dans cette partie-là, je dirais, la collectivité, donc particuliers et communes, ce sont les plus importants utilisateurs non agricoles.
Est-ce que c'est pas un peu facile, du coup, de dire que la loi en 2020 va interdire l'utilisation de ces produits dans les communes, en 2022 ce sera interdit pour les particuliers? Est-ce que c'est pas un peu facile, finalement, de demander aux communes, aux particuliers, de faire des efforts et de pas les interdire pour le monde agricole?
Alors, les efforts sont partout, globalement.
Et là, on a des mesures quand même assez radicales. On n'a pas la même radicalité dans tous les secteurs, notamment pour les plus gros consommateurs de ces produits.
Les enjeux sont pas les mêmes. On parle d'aspects esthétiques pour une collectivité. Bon, il y a des aspects aussi aménagement, dégradation des aménagements par la végétation. Mais les enjeux sont globalement pas les mêmes. Et puis surtout, les produits appliqués en zone dite non agricole le sont souvent sur des surfaces imperméables. Mmh. Et donc, le facteur de risque en termes de transfert et de pollution des eaux est plus important que s'ils sont appliqués sur un sol, même si le risque n'est pas nul non plus. Hein, on a, comme je vous le disais, une origine aussi agricole de ces transferts de polluants. Mais les surfaces imperméables augmentent largement ces transferts et souvent, dans une commune, vous prenez une voirie, on est souvent proche ou connecté à un réseau d'eau pluviale, ouais. Ce qui encore augmente.
Donc même si finalement ça ne concerne qu'une infime partie des produits consommés, pour vous, si je vous comprends bien, c'est pas un gadget, cette mesure, cette interdiction?
Non, on a l'habitude, lorsqu'on travaille avec les élus ou les agents, puisqu'on est aussi formateur auprès des agents de collectivité, ou quand on sensibilise des particuliers, c'est pas une histoire de quantité avant tout, c'est aussi une histoire de... On en utilise, en fait. À partir du moment où on en utilise, on est concerné. Parce que même en utilisant peu, on peut provoquer un impact non négligeable sur la qualité des eaux, notamment.
Xavier Renaud, merci d'être venu nous parler aujourd'hui de la façon de passer au zéro produit phytosanitaire. Ça concerne les communes, mais ce sera le cas aussi pour les particuliers, puisque ces produits ne seront plus en vente pour les particuliers à partir de 2022 et l'interdiction sera plus précoce encore pour les communes dès 2020. Merci d'être venu en studio.
Merci à vous.
À France Bleu Besançon, bonne journée.
Bonne journée.
8h26 sur France Bleu Besançon, on fait la route ensemble avec encore quelques difficultés et quelques routes assez glissantes. Hein. On a du brouillard dans le secteur des Penois et très, il y a des chutes de neige très importantes, les routes sont très glissantes. C'est Sophie qui vient de nous donner cette info. Nous avons également de la neige qui commence à bien tenir dans le sens Valdaon-Besançon. Ça glisse entre l'hôpital du Grosbois et Mamirol ce matin. Il neige fort et à gros flocons également dans le secteur de Morteau. C'est très difficile. C'est Steven qui nous a donné cette info. Et puis entre Pontarlier et la douane de Valorbe, c'est très glissant également. Les routes sont très enneigées. Les services sont en train de passer. Mais c'est difficile parce qu'il neige beaucoup, hein. Même quand les saleuses passent, la neige retombe derrière et ça a tendance à tenir encore un petit peu. Hein. Le col des Roches, lui, c'est revenu à la normale, on l'a appris il y a quelques instants. Attention sur le raccourci de Fuan, c'est très délicat, la route est glissante par plaque dans ce secteur. Dans la montée de Salins-les-Bains, direction Levier, c'est très glissant également, glissant entre Clerval et Baume-les-Dames, glissant dans le secteur de Marchaux, dans le secteur du Val-d'Aon, et puis ça glisse entre Villeneuve-d'Amont et Levier ce matin. Vigilance plus que jamais sur la route et surtout, hein, si vous voyez encore des chutes de neige, des routes glissantes, n'hésitez pas, 03 81 833 111, on fait la route ensemble.
France Bleu.
France Bleu Besançon, sur la bonne voie.
Le week-end, trois personnalités donnent de la voix. Et quand ces voix vous parlent, vous gagnez des bons d'achat de 50 euros. Samedi et dimanche, trois voix à reconnaître et trois rendez-vous.
Pour jouer.
8h-10, 9h-10, 10h-10.
Trois extraits à identifier et un cadeau à la clé. Mais serez-vous sur la bonne voie ?
France Bleu Besançon et La Poste, partenaires officiels de l'UEFA Euro 2016, vous offrent vos places pour assister à cet événement mondial. Le temps d'un jeu, devenez commentateur pour France Bleu Besançon. Faites-nous vibrer en nous racontant avec passion et en moins d'une minute une action réelle ou non d'un match. Pour participer, deux solutions. À l'antenne, vous entendez le générique de l'Euro, appelez le 03 80 833 111 et tentez votre chance en direct. Ou alors, rendez-vous sur francebleu.fr pour enregistrer et poster votre vidéo de commentaire. Les meilleurs seront sélectionnés pour la finale avec, à la clé, vos places, tout compris pour un match de l'UEFA Euro 2016. Pour ses 30 ans, France Bleu Besançon est radio officielle de l'UEFA Euro 2016. Alors, montrez-nous de quoi vous êtes capable.
France Bleu Besançon, attention, le 23 mars à 20h30, Jérémy Ferrari débarque.
Besançon, j'arrive au Kursaal. Alors pourquoi je passe à Besançon ? Pour l'argent, hein, comme le reste de la tournée.
Jérémy Ferrari, le comique du moment, revient en Franche-Comté avec son nouveau spectacle, Vend deux pièces à Beyrouth.
Tous les dictateurs ont des boîtes de com' qui bossent pour... Par exemple, moi j'ai une théorie, hein, je sais pas si je me trompe, mais je pense par exemple que Kim Jong-un, tu sais, de la Corée du Nord. Moi je pense que c'est Psy de Gangnam Style.
De l'humour, noir, acide et cinglant. Jérémy Ferrari, ça décape et c'est pour vous grâce à France Bleu Besançon, mercredi 23 mars à 20h30 au Grand Kursaal.